Bonjour et bienvenue à Regard Croisé avec Arlette Farah et
Fulgence Blas.
Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Alors aujourd'hui dans l'émission on va parler science et musique. Donc en première partie d'émission on va recevoir deux personnes. On va recevoir Monsieur Jean-Pierre Perrault qui est président de l'ACFAS, qui est l'association francophone pour le savoir. Et ensuite, nous allons avoir en deuxième partie le chercheur Marc Ayotte, voilà, qui va nous parler de ce qu'il présente donc à ce festival. Voilà.
Et toi, j'ai bien de découvrir, d'apprendre des choses.
Je suis sûr que tu vas être passionné, ça va te faire.
J'espère ça.
Tout à fait.
Alors, en deuxième partie d'émission, on va retrouver une jeune artiste autochtone qui va nous parler de son nouvel album, Laura Niquet, qui va parler de son nouvel album qui s'intitule Waska Matsiwin.
Tu le dis très bien, je ne le répéterai pas, mais je t'ai entendu.
J'ai pratiqué.
C'est bien. Alors pour l'instant, eh bien, on va partir en musique avec Malika Tyrolien qui nous chante No Merci.
Pas la peine de demander pardon, déjà tout tard. Pas la peine d'essayer, ma roue volée là. Ou qui prend rien qui parle, il faut pas en douter. Pas espérer, plaire, alors qu'il faut me plier. Tout l'amour en tenue pour le fond de glace. À force ou bon me croire, à force ou faire me grâce. Allez, toi, venez comme un cabaye à dents. Ou j'a connaître, œil pour œil, dent pour dent. Enfin, on va quelle chance, mais il te fait la paix. En parler, en plaire, en supplier, ou à terre. Enfin, les paroles ou fausses, engage en moi. Pour aimer, on te doit t'arrêter, aimer moi. Essayer de changer pour t'épé, ouais, mais plus clair. Couper racine, pied bas en moi, pour t'épé, crier, me flair. Heureusement, tout ça finit en grandi. Ou peut-être c'est qui veut t'essayer, même si on t'a mis qu'il dit, allez, c'est
là.
On dit ou attendre ou pressé moins. Ou faut comprendre que ou pressé moins, ou stressé moins, ou pressé moins. Ou dit y'a vers moi qui arrive plus vite, mais avant, check pour un parti sac, non mais décis moins, ou fais-moi tomber. C'est vous qui fais-moi précipiter moins, c'est le bon dit quitter moins. Ou là, on a gangrené l'espèce humaine, ou c'est une matrice, factice, on vient spécimen, on actrice. En vrai, ou là, on taille si on patrice, on pas vie esquisse, non. Non, on just vie esquivé, ou il fait chimé en moins, pas plus. Et pas essayer de vivre, ou c'est du moins, vers artifice. Passe pour vous, t'es délicat, ou on j'en fais comme sacrifice. En plus, sous grand moins individualiste, on t'es qu'à risquer de perdre moyen d'office qui fucking matérialiste. Ou t'es vie ensemble, y'a dans la varice. Non, mais en sous temps, là, nous t'es ensemble, non, elle s'est jadis.
Alors, nous avons avec nous le professeur Jean-Pierre Perrault. Bonjour.
Bonsoir.
Bonjour, professeur. Et,
bonjour.
Vous êtes avec moi. Et puis, on vous reçoit comme président de l'ACFAS, mais il faut quand même dire que vous êtes professeur titulaire au département de biochimie de l'Université de Sherbrooke, biologiste moléculaire et expert en enzymologie de l'ARN et des viroïdes. Donc, il y aurait plein de questions à vous poser là-dessus, mais ça sera pour une prochaine fois. Parce que là, ça prendrait trop de temps. Donc, dans l'instant, on va parler de ce 88e congrès de l'ACFAS qui se passe du 3 au 7 mai.
Alors, oui, ça va être avec plaisir.
Alors, allons-y. Racontez-moi un peu. Racontez-nous.
Sous le thème du jamais su, le congrès est réinventé tout simplement à cause de la pandémie. Donc, le congrès va être virtuel. On va accueillir plus de 5000 personnes, plus de 200 colloques, plus de 500 communications libres qui ont aussi été réinventées, qui vont être sous la forme de vidéos pour tous les communications libres et toute une programmation Science Moi, donc les activités qui sont pour le grand public qui a été développée. Et là aussi, toutes les activités vont être évidemment en virtuel.
Alors, avant qu'on aille un petit peu plus en avant là-dedans, quelle est la différence entre un colloque et une communication libre?
Le colloque va regrouper un grand nombre d'experts. Donc, ça peut être une journée ou ça peut être réparti sur plusieurs journées, va être sur une thématique très précise et va regrouper des experts, professeurs d'université, mais aussi des gens d'agence, etc., de l'extérieur, qui va faire le tour d'un sujet. Une communication libre, c'est souvent la première expérience de la part d'une étudiante ou d'un étudiant qui vient présenter ses résultats de recherche.
D'accord.
Donc, cette année, ça va être très court. On leur a demandé de faire une production vidéo d'environ 5 minutes. Et par la suite, il y aura des activités de réseautage entre les présentateurs par secteur pour qu'ils puissent discuter de leurs différentes expériences.
D'accord, ben c'est très bien. Alors, on parle de certains sujets qu'il va y avoir. Alors, l'éducation, rempart contre le populisme.
Oui.
Conférence à noter. Alors, vous m'en dites deux mots?
Je connais pas cette conférence
pas?
En particulier.
D'accord.
Parce que, comme vous savez, il y a 4000 présentations qui auront lieu au cours de la semaine. Donc,
alors,
évidemment, je ne les ai pas appris un derrière l'autre.
D'accord.
Mais je peux vous dire que c'est vraiment un beau 360 degrés de ce qui est la recherche en français.
Oui.
Et comment notre recherche se porte bien. Et ça couvre tous les secteurs. Donc, il y a des présentations dans le cadre des sciences de la vie, l'éducation, les sciences humaines, les sciences sociales, le génie, les sciences naturelles. Il y a un bon nombre de colloques aussi multidisciplinaires ou encore en entour des grands enjeux de la recherche. Et on a pris soin de développer à travers ça une programmation sur la COVID. Évidemment.
Oui, j'ai vu ça.
Oui,
j'ai vu ça. Puis j'ai vu aussi, j'allais vous en parler, du cannabis.
Du cannabis, ça fait partie de nos vies maintenant au Canada. Hein?
Cannabis médical contre la douleur chronique. Donc.
Tout à fait. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vraiment, c'est ça, c'est une programmation très relevée que l'on a cette année. On a fait un effort pour qu'il y ait des sujets discutés dans tous les secteurs où c'est qu'il y a de la bonne recherche qui se fait dans l'univers francophone, dans l'espace francophone.
Alors, pour donner un petit avant-goût aussi, il y a la justice sociale, les savoirs autochtones, les violences sexuelles dans l'enseignement supérieur. J'étais très surprise de voir ça aussi.
Vous savez, la programmation est avant tout, c'est un appel à proposition que l'on fait.
D'accord.
L'ACFAS. On invite la communauté de la recherche, aussi bien les gens qui sont associés au cégep qu'aux universités, à faire des propositions de colloques. Et donc, chaque professeur qui a le goût d'avoir prendre un peu de leadership sur un sujet monte une programmation alentour de son sujet de prédilection. Donc, c'est ça qui permet d'arriver avec des sujets, justement, qui, des fois, vont être confrontants pour certains, mais ça permet de faire cette discussion-là. Et ça, c'est très, très riche en recherche de pouvoir débattre des concepts. Alors, parmi les colloques, il y a aussi plus d'une centaine de tables rondes qui vont permettre d'avoir ces discussions-là, justement, entre experts.
Entre experts et puis avec les gens de l'extérieur ou pas?
En fonction, tous les gens peuvent s'inscrire.
D'accord.
Pour avoir accès. Ces activités-là sont payantes en échange.
D'accord.
Mais les activités de grand public, elles sont gratuites pour tout le monde. Et je vous invite à aller voir la programmation qui est aussi excessivement relevée cette année.
Je l'ai déjà regardée, je vous rassure. On a une question pour vous. Vas-y.
Jean-Pierre.
Oui.
Alors, depuis quand vous êtes à la tête de l'association francophone pour le savoir, quand j'ai entendu le nombre de participants que vous avez dit au début, là, j'ai eu le vertige. J'ai dit, est-ce que c'était comme ça avant la pandémie ou bien c'est la pandémie, c'est parce que c'est virtuel qu'il y a de si nombreux participants?
Je suis devenu président, pour répondre à votre première question, en mars dernier. Donc, c'est tout nouveau. C'est un peu mon baptême de l'air, là, on va se dire.
Vous avez toujours participé quand même.
J'ai pas toujours participé, mais oui, sur une base régulière, et j'ai un attachement particulier à l'ACFAS, parce que comme beaucoup d'étudiants, ça a été le premier congrès où c'est que j'étais allé présenter mes résultats, et ça s'est fait en 1987, quand j'étais étudiant à la maîtrise.
D'accord.
Et donc, c'est souvent la première opportunité qu'une étudiante, qu'un stagiaire postdoctoral va avoir d'aller présenter ses résultats dans un grand forum, un grand regroupement de la recherche, et c'est en français, il faut se le dire, c'est le plus grand congrès de science, de recherche en français qui se fait. Alors, ces 1000 participants, c'est un des beaux grands congrès. C'est pas le plus nombreux. Il y a déjà eu des éditions dans le passé où il y avait un peu plus de 5000 personnes, mais les inscriptions ne sont pas encore terminées. Donc, nous avons déjà 5000 inscriptions et ça continue jusqu'à la semaine prochaine.
Ben oui, puisque c'est début mai, donc il va y avoir plein de choses à regarder. Professeur, on arrive au bout de cette courte entrevue, mais c'était aussi pour présenter tout ce qu'il y allait avoir. Donc, il faut aller sur le site pour regarder tous les colloques, tout ce qui se passe, toutes les informations qu'il y a. Et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Vraiment, oui. C'est absolument extraordinaire. Donc, on peut s'inscrire que pour la semaine ou que pour un jour. Ça va être ma dernière question avant qu'on se quitte.
On s'inscrit pour la semaine. Pour c'est pas un congrès très dispendieux. Et d'accord. Vraiment, j'invite les gens à en profiter parce qu'en plus, ça a quand même son avantage à être en virtuel. Ça va vous permettre d'aller chercher des activités à tous les moments disponibles que vous avez pendant la semaine.
Donc, on cherche sur le site qui est ACFAS. J'ai plus le site en tête.
ACFAS, vous avez juste
à
taper ACFAS congrès 2021, vous allez tomber dessus.
Et on tombe dessus. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis d'avoir été avec nous. Et puis, croyez bien qu'on va être derrière nos téléviseurs, nos ordinateurs, pardon, pour regarder, pour écouter, en tout cas, toutes les
merci
différences.
Merci beaucoup pour ce gentil apéro.
Merci.
Oui.
Plaisir.
On sera avec vous.
Oui. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, nous venons d'entendre le groupe Canaille qui chantait Histoire de fantômes, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Parce que, toujours pour parler ACFAS, nous sommes en ligne avec un chercheur qui s'appelle Marc Ayotte. Bonjour Marc.
Bonjour, ça va bien.
Ça va ?
Bonjour. Bonjour Marc.
Alors, là, j'ai annoncé à personne sur quoi on allait parler. Donc, déjà, je vous préviens. Donc, Marc, pour une socio-anthropologie de fantômes. Et voilà pourquoi on vient d'entendre Canaille qui nous parlait histoire de fantômes. Et j'aimerais que vous nous disiez quand et comment on a parlé de fantômes dans l'histoire pour la première fois, puisque vous êtes pour une socio-anthropologie de fantômes. Donc, c'est ça qui va être le sujet de votre conférence.
Oui, donc je pense que c'est une question super intéressante parce que souvent quand on parle de fantômes ou qu'on s'imagine le fantôme, on fait référence à des choses qui sont plutôt terrifiantes, des choses qui sont plutôt là, axées sur la peur. Mais cependant, quand on regarde l'histoire, on remarque que c'est tout à fait le contraire. En fait, l'un des premiers fantômes mentionnés, c'est celui de l'épopée de Gilgamesh, une histoire sumérienne de l'époque, qui parle en fait de le fantôme d'Enkidu, le meilleur ami du héros, qui revient d'entre les morts pour lui mentionner qu'il a besoin de son aide, en fait, pour lui mentionner une information importante. Sinon, un petit peu plus tard, avec l'histoire de Pline le Jeune, un historien mentionne une histoire d'une maison hantée. En fait, le fantôme a besoin de l'aide d'un écrivain pour découvrir le salut, pour retourner, là, quitter le monde des vivants et pour enfin le vivre son salut. Et finalement, je pense qu'en Égypte ancienne aussi, on a des mentions de quelque chose qui se rapproche du fantôme. En fait, on a une énergie divine qui s'appelle le Ka, qui est l'âme du pharaon qui revient sur Terre. Et cette âme-là est présente pour donner de l'énergie au prochain pharaon en Égypte. Et ça nous montre que en fait, le fantôme, à l'origine, n'était pas du tout lié à ce dont qu'on l'attribue aujourd'hui, mais était plutôt le contraire, quelque chose de rassurant même, qui nous permet là, de découvrir des choses et même de se rappeler des bons côtés là, de notre existence.
C'est ça, parce que quand vous dites résurgence des croyances ou continuité des savoirs, comment s'est pris ici au Québec le mot fantôme? Enfin, quand je dis ici au Québec, et puis peut-être partout dans beaucoup de mondes différents.
Ce qui est intéressant au Québec, en fait, c'est qu'on remarque que lorsqu'on parle de fantômes, du moins, c'est peut-être à cause des médias, c'est peut-être à cause, en fait, de l'influence folklorique. On parle souvent de choses liées, premièrement, à la religion et, deuxièmement, liées au sentiment de l'effroi. Quand on parle à la grande masse là, qui s'intéresse à ça, je pense, selon moi, que l'influence folklorique, par exemple, des textes comme les textes de Maison Hantée, de Louis Fréchette, ont vraiment là, inspiré ce dialogue-là. Oui. Mais ce dialogue-là est lié au terme fantôme. C'est le fantôme tel qu'on le connaît. Par contre, quand on pousse un peu plus, qu'on change la terminologie, qu'on parle de spectre, d'esprit, alors on découvre toute une panoplie de nouvelles pensées liées au fantôme. On entend des choses plus positives parfois, des choses qui sont liées plus... un sentiment, même à une petite voix inaudible qui va apparaître dans notre esprit pour nous emmener à voir et même à comprendre des choses. Mais c'est sûr que le folklore a eu son influence là, massive là, sur la conception du fantôme, ça, il n'y a aucun doute.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, première question, je vous la pose, après mon collègue va vous en poser une. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler, à étudier là-dessus?
C'est une bonne question. Quand j'étais beaucoup plus jeune, dans les 14-15 ans, là, je me suis mis à vraiment là, aimer les films d'horreur. Et c'est drôle, quand j'écoutais les films d'horreur et que je racontais cette histoire de fantôme-là à mon entourage, on avait toujours la mention du fantôme comme étant lié à ce film d'horreur-là. Et pourtant, dans mes expériences ou avec ma famille, qui est un petit peu plus ésotérique, le fantôme n'avait pas du tout là, cette définition-là. Puis là, je me suis demandé, mais comment ça se fait, déjà à cet âge-là, comment ça se fait que on associe toujours ça à ce côté effroyable-là. Et avec mes recherches, j'ai découvert autre chose qui m'intéressait davantage, mais c'est vraiment cette passion pour le film d'horreur-là qui m'a amené à poser plus de questions sur le fantôme.
Alors maintenant, je laisse mon collègue vous poser sa question.
Arlette, c'est ce que je voulais demander à Marc. Ah, quel est cet amour pour les fantômes? C'est ce que je voulais lui demander. Et qu'est-ce que vos amis, quand vous avez commencé à vous intéresser aux fantômes, comment l'entourage a réagi, les amis d'enfance, je veux dire?
Il ne parle plus.
Ça fait un éclat. En fait, beaucoup de gens n'ont pas pris ça au sérieux. Premièrement, j'ai fait mes études avec une concentration d'études autochtones, puis c'était comme attendu que je travaille sur ça. Et puis finalement, j'ai décidé d'y aller vraiment avec mon instinct puis de travailler sur ce sujet-là. Et jusqu'à certains enseignants, même que j'avais durant le bac, par exemple, m'ont mentionné que, hey, t'es sûr, là? Ça me semble que c'est un sujet plutôt d'Halloween, là, ce sujet-là. Oui, voilà, pourtant, tu sais, ça a été un petit peu plus long, puis j'ai recherché ensuite, là, certains chercheurs ailleurs dans le monde qui se sont intéressés à des phénomènes similaires. Tu sais, le fantôme n'est pas considéré pareil partout. Et ils ont mentionné ce même type de commentaire-là, que quand tu annonces ça aux gens, toujours ce petit recul-là de, est-ce que c'est vraiment scientifique ou est-ce que là, tu fais juste là, faire du folklorisme comme le faisaient les frères Grimm à l'époque? Tu sais? Mais il y a eu cette dynamique-là qui est rentrée. Je pense cependant qu'aujourd'hui, j'arrive à justifier que c'est absolument scientifique, même socio-anthropologique.
Mais parce que ce qu'il y a, c'est que le mot fantôme est tellement parti avec des films, avec des histoires, avec des choses comme ça. Il y a peut-être d'autres mots qui pourraient passer, qui auraient un côté plus scientifique pour exprimer ça?
Oui.
Quoi, par exemple?
Ben, par exemple, parfois, on a la terminologie de phénomène de hantise. Déjà, le phénomène de hantise, quand on l'utilise, il est moins lié à ce personnage, le fantôme personnifié, plutôt au phénomène de la présence. En faisant mes recherches, là, je me suis intéressé d'ailleurs à une dame qui s'appelle Madame du Défunt, qui mentionnait vivre des expériences particulières là, chez eux. C'est une aristocrate là, française. Puis, elle mentionne dans un de ses discours, « Moi, je crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur. » Donc, ce phénomène-là, c'est pas nécessairement la présence, c'est plutôt le sentiment de vivre quelque chose. Fait que je pense que si on parlerait d'ailleurs le fantôme, c'est pas tellement juste parce qu'on devrait utiliser les fantômes puisqu'il en existe une panoplie. Je pense que le terme déjà entier est préférable si on voudrait parler de l'expérience ou l'événement lié là, à ces choses-là.
Et est-ce que cette histoire de croyance, de fantômes, quand on emploie ce mot-là, est différent d'un pays à un autre?
Oui, absolument. Vraiment, vraiment très, très, très différent. Là, je me suis intéressé à une étude qui a été faite, là, entre autres, en Norvège. Puis le fantôme ne sera pas du tout la même chose. Par exemple, nos fantômes, nous, sont souvent liés à un endroit. Souvent, ils sont vêtus d'anciens vêtements, puis nous font peur la
ils
nuit.
Ils font peur, oui. C'est la nuit.
Dans le folklore, bien sûr. Mais si je vais en Norvège, c'est tout à fait le contraire. On parle d'un événement familial. Le fantôme réapparaît dans une famille pour les aider à surmonter un événement.
Ah ben, je préfère la Norvège, moi.
Oui, ouais, à ce niveau-là,
moi aussi, je préfère la version norvégienne.
Par exemple, je me rappelle d'une histoire où il y avait une famille qui avait vécu un deuil dans un accident de voiture. Puis la famille avait été dépareillée suite à ça. Et la matriarche de la famille est revenue puis a mentionné que le fantôme était revenu et a mentionné à celle-ci qu'il fallait pas qu'il se sépare, mais il fallait qu'au contraire, ils retournent ensemble en communauté et qu'ils s'entraident là-dedans. Donc, le fantôme a servi à ça pour ramener les gens. Et ce fantôme-là apparaît constamment là, dans des moments difficiles familiales pour qu'on retrouve la racine de cette famille-là, qu'on se rapproche suite à un deuil ou un événement difficile.
Et c'est super intéressant, en tout cas. Et puis, j'aime ça. Enfin, vous reviendrez pour qu'on sache un petit peu plus de ce qui se fait un petit peu partout. Maintenant, vers la fin de cette entrevue, ce que je voudrais savoir, c'est de quoi vous allez parler pendant cette conférence à l'ACFAS?
Durant la conférence, je vais faire vraiment un grand survol des acquis qui ont été faits sur l'étude des fantômes, en passant par l'histoire, en allant jusqu'ensuite là, à l'effort de la SPR, qui est une société qui avait été spécialisée sur l'étude des phénomènes paranormaux. Ensuite, j'ai travaillé plus spécifiquement là, sur un cas particulier qui est arrivé à Rivière-la-Guerre, en Montérégie, un phénomène d'un village hanté et que les personnes qui habitent dans la localité mentionnent souvent des expériences. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui a emmené finalement là, ces expériences-là. Pourquoi est-ce qu'on en discute encore aujourd'hui? Et est-ce que il a pu avoir une influence externe qui a permis aux gens de mentionner qu'il leur arrive des expériences de hantise dans ce village hanté-là? Donc, on va essayer de comprendre comment se fonde finalement une étude scientifique autour du fantôme et comment elle peut être justifiable et même être acceptable par la communauté scientifique.
Ah, c'est terriblement intéressant. Donc, voilà, pour ceux qui vont aller voir tous ces scientifiques qui sont là, ne ratez pas Marc Ayotte. Voilà.
Ça va me faire plaisir de vous écouter.
Et puis, bien sûr, je vais être derrière l'écran, ça c'est sûr.
Merci
et
beaucoup,
puis,
Marc.
Merci, et puis je vous réinviterai pour qu'on parle un petit peu plus longtemps et qu'on s'éloigne un petit peu du mot fantôme et qu'on explique un petit peu la structure de tout ça et pourquoi ça reste aussi dans nos mémoires. Ça me fascine.
Si tu le réinvites, j'aimerais avoir la liste de certains villages hantés ici pour que j'aille visiter.
Voilà.
On pourrait même les visiter ensemble.
Voilà. Ça serait super. Allez,
merci, Marc.
Rendez-vous est pris. Merci Marc. À bientôt.
Beaucoup.
Au revoir.
Bye bye.
d'entendre René Reed qui nous chantait « I saw a ghost ». Donc, pour en finir avec les fantômes.
Alors, hein,
tu vois, arrête. Ça t'a intéressé, Fulgence ?
Oui, j'ai jamais visité de village...
De fantômes.
Hanté.
Hanté. Et voilà. Ben, ça sera pas la prochaine fois. Mais là, pour l'instant, on,
oui.
on part dans ben, la c'est... prochaine demi-heure en musique.
C'est alors, oui, pour découvrir le nouvel album de Laura Nikwe.
Alors, restez avec album. Nous.
Restez avec nous, les détails un peu plus tard.
Vous écoutez Regards croisés.
Wait.
Ouais, c'était la version acoustique de cette chanteuse guitariste que je viens de découvrir. Je la connaissais pas du tout. J'aime cette version. Non.
Je l'ai vue sur scène.
Tu as la chance de la voir sur scène, chanceuse.
Ouais, chanceuse. J'adore cette chanson.
Laura Nikoué qui vient nous parler de son nouvel album. Cette pièce qu'on vient d'écouter, ça fait partie de son premier opus d'ailleurs.
Oui.
Ça fait pas partie. On va écouter deux autres pièces du nouvel album qui sortira bientôt, là. Bientôt à la fin du mois, le 30 avril, dans deux jours. Hein, c'est bien ça. Alors, bonjour Laura Nikoué.
Bonjour Laura.
Kwekwe.
Ah oui, c'est vrai, Kwekwe. Pour saluer.
Comment allez-vous à la veille, quelques jours du lancement du nouveau bébé?
Ça va très très bien, merci.
Oui, comment on se sent? Comment vous allez?
Je me sens très sereine en fait, je me sens très calme et je suis vraiment dans la sérénité aujourd'hui.
Ah! Bravo. Ouais. Il y a des artistes qui ne dorment même plus quand ils entendent. Ah, il me reste deux jours pour le lancement de mon nouvel album. Ils ne dorment même plus, ils sont anxieux, ils sont paniqués, ils sont à fébrilité, quoi. Voilà. Alors, parlez-nous un peu du processus de création de cet album-là, ce nouvel album.
Ça a pris un bon 3 ans de gestion. J'ai pris mon temps, en fait. Je voulais que cet album soit comme qui avance à mon rythme aussi. Je suis une personne très patiente. J'ai appris avec la patience aussi et avec le COVID aussi qui était là entre-temps. Donc, ça m'a permis de prendre du recul aussi dans ma vie personnelle aussi. Et ça m'a permis aussi de me ressourcer aussi pour côté mentalement et côté physique aussi. Donc, c'est vraiment important pour moi de me ressourcer aussi en faisant ce que j'aime.
La musique, chanter et jouer à la guitare.
Est-ce que cet album change un peu de ce que vous avez déjà fait?
Ah oui, c'est sûr, parce qu'on apprend tous les jours, hein, surtout dans...
Oui, c'est vrai.
En studio aussi, tu sais, j'adore apprendre, j'adore, tu sais, côté studio, ça m'a permis d'être très patiente aussi, de travailler avec la patience.
Oui, je comprends ça.
Oui. Et Laura, dans quelle partie du Québec, là, la langue Atikamekw, si je prononce mal, corrigez-moi s'il vous plaît.
Oui, c'est la langue Atikamekw. On est 3 communautés dans la Naudière, dans la Mauricie et dans les Laurentides.
Oui.
Vous avez toujours adoré chanter?
Oui, c'est sûr. Je suis née avec une guitare, en fait, donc dans une famille de musique aussi.
Ah oui.
Puis je me dois de valoriser notre talent aussi, notre talent Nikoué, si je peux dire, du côté de mon père et du côté de ma mère aussi, tu vois.
Oui.
Et je suis la seule à le valoriser, que tu sais, je suis comme la seule à être aussi loin dans la musique aussi.
Ah oui, parce que c'est engagé aussi, hein, il y a des histoires qui se racontent, des textes qui sont beaux, et des textes pleins d'espoir aussi.
C'est vous qui les écrivez?
Comment?
C'est vous qui écrivez vos chansons? C'est vous qui les composez?
Oui, c'est moi. J'ai commencé à écrire à peu près à l'âge de 16-17 ans à peu près. Et j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais à peu près 11 ans. Et là, aujourd'hui, j'en ai 39. Donc, ça a été un long processus pour moi d'apprentissage aussi à tous les jours. Et j'ai dû aller chercher aussi des connaissances par des formations, des maisons de création, d'écriture. Et ça m'a permis de mieux travailler mes textes aussi.
Waouh, quel parcours. Arrête.
La guitare a été le seul instrument... qui était fascinant, qui allait avec les chansons, ou bien il y a d'autres instruments?
Oui, c'est la guitare acoustique. Je m'accompagne tout le temps à la guitare. Et j'ai voulu intégrer d'autres instruments que j'ai comme connus en grandissant aussi. Tu sais, ma famille écoutait du country, du... comme du Creedence. C'est tout de style de musique comme du Moustaki, tu vois.
Oui.
Alors, oui, oui.
C'est différent.
Oui, puis là, je viens d'apprendre aussi, une de mes tantes, Nikwe, il vient de m'apprendre, ça fait pas longtemps, que mon grand-père, Georges Nikwe, a connu Félix Leclerc dans le temps de la DRAF. Oui, de la DRAF, et mon grand-père, son rêve était d'être musicien ou chanteur, tu vois.
Oui.
Donc, mon grand-père, sa première copine était blanche aussi, et ça voulait qu'il s'appelait Laura. Donc, on m'a appelé Laura quand je suis née. Donc, tu sais, je viens de savoir ça. Là.
Un souvenir d'une belle histoire d'amour, c'est joli, hein?
Oui, c'est sûr, oui.
Ah, la blonde du grand-père qui s'appelait Laura. Ouais,
c'est une belle dédicace.
Une belle dédicace.
Oui.
Laura, quelle a été la collaboration avec les artistes qui vous ont... À qui vous avez fait appel? Quand je vois la liste ici... Et Atse, Kanen et Soleil, Lounière, qui c'est encore, Spirit Singers, Shawit, Anna Schnitt, Red Tails, Gotha Lago. Comment a été cette approche et comment s'est passée la collaboration avec ces artistes que vous connaissez depuis fort longtemps, peut-être, oui?
Oui, tous ces artistes sont aussi dans Musique Nomade, aussi on représente Musique Nomade. Donc, la directrice artistique de Musique Nomade et ma gérante aussi, Joëlle Robillard. Et,
oui.
C'est elle qui m'a approché aussi. On se connaissait déjà, ça faisait comme un bon 2 ans. Donc,
oui.
C'est grâce à elle que j'ai suivi aussi des formations et tout. Et c'est elle qui m'a proposé d'être sa gérante. Donc, moi, j'ai tout de suite accepté. Alors, elle voulait s'occuper de moi. Et ça s'est engendré avec ces artistes-là aussi qui ont collaboré avec l'album. Donc, ça s'est venu avec un par un. Donc, moi j'étais très, très honorée aussi de ces artistes aussi.
Je dis bravo à Laura et à ses amis artistes qui l'ont accompagné. On va écouter une première pièce de du nouvel album.
Oui.
J'aimerais bien qu'on me corrige si je prononce mal le titre de l'album. C'est Waska Matisi Win, ça va?
Waska Matisi Win, oui.
C'est Matisi Win, voilà. Matisi Win. Voilà. Et la pièce qu'on va écouter, c'est Nishto Kishto, c'est bien ça?
Nishto Kishko, oui.
Kishko.
Alors
et pourtant,
écoute.
Ça s'écrit avec N-I-C-T-O et K-I-C-K-O. Mais on dit
oui,
Nishto Kishko. Voilà.
Oui, allez, le C, on le prononce comme le C-H.
Comme le C-H.
D'accord, alors allez, on l'écoute.
On l'écoute.
Nishto Kishko. Ben doks kermidak Nishto gishko Ben doksi geyak Oh Ashin nishto gishko Shim quick on Orinakashi Bebon Ishquate Shena Mashinansa Kibishquate Kibetuinanta Nishto gishko
Nishto Kishto.
C'est une belle Laura, chanson.
Ouais, une berceuse. Moi, je l'appelle. Ça, c'est ma berceuse.
Ah, ben, j'avais pas l'impression, moi, d'une berceuse. J'avais l'impression comme quand on prend. Alors, moi, je me suis fait un film sur la chanson. Je peux le dire, Laura ?
Je me suis fait un film
sur la chanson. J'ai eu l'impression quand on a, par exemple, un petit frère ou une petite sœur qui tourne mal et puis qu'on l'assoit pour lui expliquer la vie comme il faut, ça me donnait cette impression-là.
C'est une question. Ça va en même temps à la question. Quelle est la signification de ce titre?
Elle dit quoi, oui? Elle dit quoi, la chanson?
Nishto Gishko, ça veut dire trois jours. C'était pendant un jour de l'an. Moi et mon petit frère Toby, nous étions en visite dans notre village à Wemontashi. Et on voulait aller visiter notre père. Donc, ça faisait trois jours qu'on allait cogner à sa porte. Donc, il n'ouvrait pas sa porte. Et là, il y a aussi une histoire tragique aussi là-dedans. C'est une histoire de famille. Et un de ses frères, mon père, un de ses frères, on avait trouvé mort tragiquement chez lui. Oh. Et puis ça faisait 4-5 jours qu'il était déjà décédé.
Oh, mon
Donc, mon oncle était malade. Et puis ça faisait longtemps qu'il prenait pas sa médication et tout, donc on l'a trouvé décédé chez lui. Puis nous, on était très inquiets que mon père ouvrait pas sa porte. Ça faisait trois jours. Donc, puis là, le temps était long. Et l'hiver, il commençait à s'installer très, très lentement. C'est la neige qui tombait lentement. Mmh. Et ça parle de sa porte aussi. Ouvre-nous la porte, papa. C'est ça que je dis là-dedans. Mmh. Là, puis c'est ça l'histoire. Puis trois jours après, on l'a croisé à l'épicerie. Il était bel et bien vivant. Puis ce qu'il nous a dit, pourquoi tu nous as pas ouvert la porte? Ça fait trois jours qu'on cognait à ta porte. Et lui, il nous a dit, ben, j'avais reçu des écouteurs en cadeau. Et je voulais être seule, tranquille. J'écoutais la musique avec mes écouteurs. C'est ça
qu'il y a. Une belle histoire de famille. Oui. Oui.
Mais, oui. C'est une histoire qui finit bien mieux que celle que j'imaginais, mais en tout cas.
Oui, ça finit bien. Ça finit bien, tant mieux.
Oui.
La voix est magnifique. J'aime ça parce que ça me fait toujours rêver. Alors après. Chaque fois que j'entends ta voix, j'ai envie de. Je crée des films dessus qui sont totalement faux, comme je viens de le dire il y a l'instant, mais en tout cas, ça me fait rêver là-dessus.
C'est imagé, quoi. Laura, quel est le message central dans cet album-là?
Comment?
Le message central, le message principal dans cet album?
C'est la résilience, c'est l'espoir d'un monde meilleur. Comme je dis souvent, je suis née pour être messagère et d'aider le plus de monde que je peux aussi avec mes messages. Et tu sais, j'écris pas nécessairement mes textes avec la tristesse, donc c'est tout le temps avec espoir. Et l'album est très résiliente à mes yeux.
Mais c'est parfait. Ça c'est beau d'écrire pour le meilleur, parce qu'on peut toujours se sortir des choses difficiles, mais il faut Oui, il faut de la résilience, vraiment.
Il faut de la résilience, pour aller de l'avant. Oui, oui, c'est très important. Et je pense que cet album, moi, les quelques pièces que j'ai écoutées, je n'ai pas encore écouté tout l'album, les quelques pièces que j'ai pu écouter vont faire le bon chemin dans le paysage musical québécois. Et puis d'ailleurs, on peut précommander déjà, dès maintenant, même si la sortie c'est dans 2 jours, on peut précommander déjà. Voilà.
Oui.
Alors, et puis... qu'est-ce que je voulais demander encore là ? Quel est le regard sur la réalité des femmes autochtones en 2021 ? De la couleur, de l'évolution.
C'est sûr, avec l'album, ça va être l'évolution chez les femmes autochtones. Et pas juste chez les femmes autochtones.
Oui, chez les femmes.
Chez
les femmes en général.
Aussi. Oui, de toutes les Premières Nations, de toutes les nations, toutes les femmes, tu vois.
Oui.
Et comme, puis là, tu sais, je représente aussi les femmes autochtones aussi, comme dans les chez les femmes violentées ou bien avec la violence qui passe inaperçue de ça, ou chez les femmes disparues ou assassinées, la discrimination raciale, tu sais, ça me touche énormément. Donc tu sais, vu que je suis presque la seule femme autochtone qui est dans ce chemin de la musique, je commence à être sur les hautes plateformes. Donc, je me dois d'aider les femmes aussi, tu sais, pas juste autochtones, mais toutes les femmes au Québec, au Canada, si je peux dire comme ça. Et si je suis capable de dire des messages avec espoir, pourquoi pas, tu vois? Et c'est sûr aussi dans ma langue aussi. Tu sais, je défends ma langue aussi, mais si Florent Volant est capable de percer avec sa langue en musique, pourquoi pas moi aussi, tu vois?
Oui, c'est
donc,
sûr.
Donc, je me dois d'être comme ça.
Est-ce que Florent, c'est votre idole?
Je dirais pas mon idole, mais ça a été peut-être plus un mentor pour moi à mes yeux. Je l'ai suivi tout le temps. Tu sais, c'est pour concrétiser mon plus grand rêve. C'est sûr, c'est lui qui est devant moi. Alors après, ça va être moi qui va être devant toutes les jeunes filles, les jeunes femmes. Tu sais, je suis prête à les guider, à leur ouvrir des portes pour eux. Donc, j'encourage beaucoup les filles et les femmes aussi qui veulent aller vers ce chemin-là aussi.
Oui.
Déjà, il y a pas mal de jeunes filles qui vivent à travers les textes et les chansons qui sont faites.
Oui, c'est ça.
La dernière pièce de l'album qu'on va écouter avant de vous dire au revoir, parce qu'on y va à la fin de la conversation, de l'entrevue, c'est Nitanis Anaïs.
Ma fille s'appelle Anaïs. Elle va avoir 19 ans bientôt.
Oui.
Elle vit avec moi à Trois-Rivières. Ma fille, ça a été ma porte de sortie de toutes les misères qu'on a dans nos communautés aussi.
Oui.
Et tout comme le suicide, j'ai porté très longtemps le suicide en moi. Tu sais, j'étais des fois très suicidaire par moment, donc j'ai voulu abandonner par moment. Donc, je suis tombée enceinte comme ça et ça a été ma lumière à moi pour continuer à concrétiser mon rêve.
Oui, ça t'a sauvé la vie.
Oui, c'est ça.
Oui.
Laura, faites des câlins à Anaïs de notre part, de notre équipe.
Oui, merci.
De la part de l'équipe de Regards Croisés. On va écouter Nitanis Anaïs. Et puis, je vous dis
merci, bonne route.
Bonne route avec le nouvel album qui a pour titre Waska Matisi Win, qui sort dans 2 jours,
beaucoup.
Le 30 avril.
Oui, merci.
Bravo.
Allez, bon voyage musical.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
We regard tout le we regard Matisi Win. Mamushek kitchen do tadin na mamushek kitchen what you mean hey hey we rata mushek kim kwer me den negane wa the man keep in my see when
Ouais, c'était Nitanis Anaïs, l'une des pièces du nouvel album de Laura Nikwe Waska Matisiwin. Arlette.
Eh ben, elle a une voix qui me fait. Enfin, j'aime l'entendre chanter. J'ai beaucoup apprécié. J'ai eu la chance de l'avoir en spectacle, donc j'avais beaucoup apprécié ça. Mais chanceuse. En même temps, quand elle parle... Oui, chanceuse, c'est vrai, t'as raison.
Mais je l'ai pas vu.
En même temps, quand elle parle, c'est... t'as envie de la laisser te raconter une histoire.
Oui,
elle a un
oui,
timbre
oui.
de voix qui fait que t'aimerais oui. qu'elle te continue puis qu'elle t'emmène à travers toute oui, l'histoire oui. qu'elle doit savoir, voilà,
moi,
pour te faire rêver.
Moi, si, un spectacle prochainement, là, même que ce soit virtuel ou bien ici à Montréal, quand...
Eh ben je te conseille d'y aller.
De normalité, je vais pas rater l'opportunité. Hein.
Voilà.
C'est vrai, le peu que je connais d'elle là, vraiment, c'est
très,
de l'art.
C'est très intéressant.
Oui, oui. oui.
Donc, merci, voilà, merci à elle d'avoir été là. Et puis, comme on arrive vers la fin de cette entrevue, Fulgence, eh bien, on dit merci à Marc Ayotte. Aussi pour ses histoires de fantômes et les futures histoires qu'il viendra nous raconter.
Et les villages hantés qu'on va aller visiter ensemble.
Et les villages hantés qu'on va aller visiter ensemble, dont on vous parlera après. Et puis, merci aussi à Jean-Pierre Perrault, le président de l'ACFAS, qui a bien voulu nous parler. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est là tout de suite début mai. Donc, allez sur le site, allez voir les dates, allez voir tous ces chercheurs qui sont là, tout ce qu'ils ont à nous apprendre. Il y a des tas de sujets, vraiment, ça n'arrête pas. Merci Maurice Bolduc pour la musique.
Des milliers de conférenciers en plus.
Voilà, merci tout le monde d'avoir été là, puis à demain.
À demain, on se voit. Allez, prenez soin de vous.